Eh bien oui, bien chers amis, nous voici bientôt au terme de notre parcours intensif de paix. Reprenons ces trois dernières semaines. On peut se souvenir que, dans notre première soirée, nous avons parlé de l'urgence de la paix. La première mission du chrétien n'est pas d'être parfait, mais en paix avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. On se souvient aussi que la paix est un don de Dieu donné une fois pour toutes, qui est à accueillir et qui ne peut pas nous être retiré. Cette recherche de la paix passe aussi par un combat spirituel, bien sûr, mais même le nécessite, car il nous fait grandir en spiritualité. Et puis, cette première semaine, nous avions posé aussi que Dieu est là, toujours là, et qu'il agit pour faire grandir la paix avec notre bonne volonté. Le Père Richard en disait un mot lors de la deuxième soirée. Comme dans tout bon parcours, nous avons vu comment connaître et franchir les obstacles à cette paix. Et nous avons insisté notamment sur l'importance de l'abandon et de la confiance dans le Père pour combattre la peur du manque, faire grandir notre foi en la Providence, apaiser notre peur de la souffrance, ne pas nous désoler des défauts des autres, purifier notre manière de désirer et savoir décider même quand demeure une part d'incertitude. La semaine dernière, vous vous souvenez aussi que pour faire grandir la paix, nous avons vu que je peux contempler et prier Dieu, car cela me fait entrer dans la délicatesse de son amour qui est paix. Travailler aussi avec le secours de sa grâce, ma faculté de m'abandonner à lui, car c'est alors qu'il peut agir dans ma vie et cela accroît, fait grandir la paix. Bien sûr, lui faire confiance, puisque Dieu veut réellement me donner ce dont j'ai besoin, et puis demander, travailler, l'humilité, la patience, car nous avons vu que Dieu exprime aussi sa miséricorde dans nos faiblesses et nos fautes. Tout cela fait, et j'espère au cours de ces dernières semaines, a fait grandir en nous la paix, et nous allons voir ce soir comment conserver, prendre soin de notre paix intérieure en 5 étapes. La première, c'est nous souvenir que l'amour gratuit de Dieu est premier. On l'a déjà dit dans ce parcours, quand nous tombons, nous pouvons être tentés de nous éloigner, de prendre moins soin de notre relation à Dieu. On peut se dire, mais comment moi qui viens de pécher, pourrais-je aller me présenter devant lui ? J'ajouterais que ça peut être un moyen insidieux du malin pour nous éloigner du sacrement de réconciliation, notre sentiment d'indignité. C'est évidemment une erreur, car c'est la tactique de notre vieux démon Screwtape qui dit à son novice, à son neveu novice, « Chaque fois que cela est possible, empêche ton protégé de prendre sérieusement la résolution de prier. » Et en effet, où trouverons-nous la guérison de nos fautes si ce n'est auprès de Jésus lui-même ? Et donc, nos péchés sont en fait un mauvais prétexte pour nous éloigner de lui, puisque plus nous sommes pécheurs, en réalité, plus nous avons le droit, plus nous avons le besoin de nous rapprocher de lui. Lui-même, Jésus, qui nous a dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Luc 5. Alors c'est sûr que si nous attendons d'être des justes pour avoir une vie d'oraison régulière, nous pourrons attendre longtemps et nous pourrons attendre longtemps la paix. Et il y a sans doute là une illusion importante à démasquer. Peut-être que parfois nous voudrions nous présenter devant le Seigneur que lorsque nous sommes propres, bien peignés, contents de nous. Mais finalement, il y a sans doute beaucoup de présomption dans cette attitude. Car si nous poussons trop cette attitude, en fait, ça nous conduit à vouloir nous passer tout simplement de la miséricorde de Dieu. Et dans cette pseudo-sainteté à laquelle nous aspirons parfois inconsciemment, eh bien, en réalité, nous n'avons plus besoin de Dieu. La vraie sainteté, c'est au contraire de reconnaître toujours davantage combien nous dépendons absolument de sa miséricorde, puisque c'est là que va demeurer stable notre paix. Pour terminer ce premier point, on peut ajouter une remarque. Il est évidemment dangereux de faire le mal, et nous devons tout faire pour l'éviter. Mais il faut reconnaître aussi que parfois, c'est dans nos chutes que nous nous rapprochons davantage de Dieu, ou plutôt que nous le laissons nous approcher. Alors n'oublions pas que tout vient de Dieu gratuitement. Éloi Leclerc le rappelle, Jésus ne demande pas aux pharisiens et aux docteurs de renoncer à la loi, mais à cette suffisance qui les ferme sur eux-mêmes et les empêche d'accueillir la grâce du royaume dans sa radicale nouveauté. Cette grâce, tendresse du Père, ne dépend pas de la volonté de l'homme ni de ses efforts, mais de la seule initiative du Père. Citons-le encore une fois, Éloi Leclerc, quand il nous rappelle ce passage de la femme reconnaissante au parfum, que Jean-Guilhem Xéry préfère appeler la pécheresse pardonnée, en Luc 7. Je cite Éloi Leclerc, pas Jean-Guilhem. « Jésus n'a pas dit, comme on traduit parfois à l'encontre de la logique de la parabole, « Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. » Mais si elle montre tant d'amour, c'est qu'il lui a été beaucoup pardonné. Ce n'est pas notre amour qui est cause et mesure du pardon divin, c'est au contraire l'amour miséricordieux et tout gratuit de Dieu révélé en Jésus qui appelle et provoque notre amour repentant et reconnaissant. Comme nous l'a rappelé cette fois Jean Guilhem lors de la conférence de lancement, Dieu vient à nous avant même que nous allions à lui. Jean Guilhem nous disait aussi, cette paix de Dieu est donc d'abord une grâce de plénitude et de restauration donnée sans mérite. Dieu veut la donner à son peuple. Et puis cette phrase du pape Léon, c'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu qui nous aime tous inconditionnellement. Alors pour conserver notre paix, en prendre soin, premier moyen, souvenons-nous de la gratuité du don de Dieu, de la gratuité de son amour pour chacun de nous. Deuxième piste pour rester dans la paix, faire ce que Dieu lui-même nous demande, persévérer. Et en effet, il ne faudrait pas perdre la paix parce qu'on n'arrive pas toujours à y rester comme on voudrait. On l'a dit la semaine dernière, notre rééducation est lente, il faut beaucoup de patience envers nous-mêmes. Donc on peut repartir d'ici avec un principe fondamental, je ne me décourage pas parce que je sais que le Seigneur m'aime. Et ça, on peut se le répéter tous les matins en se levant. D'ailleurs, peut-être vous vous souvenez du père Édouard Marot qui était venu avec Alicia Beauvisage nous parler de la dévotion au Sacré-Cœur. Et puis ensuite, vous vous souvenez que notre paroisse a été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus par le père Richard. Eh bien, tous les matins, le père Marot laisse le Seigneur lui dire « Édouard, je t'aime ». Et il lui répond « Moi aussi, Seigneur, je t'aime ». Voilà un dialogue tout simple et facile à reproduire par chacun de nous. Il suffit de remplacer Édouard par votre prénom, sauf évidemment si vous vous appelez Édouard. Un autre principe fondamental, si je ne suis pas capable de faire de grandes choses, là aussi je ne me décourage pas, mais j'en fais de petites. Parce que parfois, faute d'être capable de faire de grandes choses, d'actes héroïques, eh bien, nous négligeons les petites qui sont à notre portée et qui sont pourtant fécondes pour la paix et pour le progrès spirituel, qui sont source de joie. Dans Matthieu 25, il est écrit « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Donc concrètement, si je ne suis pas capable de rester en paix face à des situations difficiles, eh bien, je peux m'efforcer, travailler à conserver cette paix dans des situations plus faciles de tous les jours. Faire tranquillement, sans nervosité, mes tâches quotidiennes, m'attacher à faire bien chaque chose dans le moment présent, parler paisiblement, avec douceur, à mon entourage, à mon épouse, éviter un empressement excessif, même dans mes gestes, même dans la manière de monter les escaliers. J'ai beaucoup aimé cette phrase en préparant ce topo. Les premières marches de l'escalier de la sainteté peuvent très bien être celles de mon appartement. L'âme se rééduque en effet souvent par le corps. On en a parlé longuement dans notre année de la gratitude. Les petites choses faites par amour pour contenter Dieu sont d'un très grand profit pour nous permettre de conserver la paix. C'est d'ailleurs un des secrets de la sainteté de Sainte Thérèse de Lisieux. Et moi, je dois vous dire que je fais souvent mes petites tâches domestiques rébarbatives, et je suis sûr que vous en avez tous, avec Sainte Thérèse. Et franchement, ça se passe beaucoup mieux. D'ailleurs, notre vétéran de la tentation, le fameux Screwtape, lui aussi a bien intégré cette théorie du plus petit prochain pas, mais évidemment dans le sens inverse. Il dit à son neveu, Sans doute, comme tous les jeunes tentateurs, es-tu impatient de pouvoir nous annoncer des perversions spectaculaires. Mais rappelle-toi que peu importe les péchés, pourvu que leur accumulation ait pour effet d'écarter l'homme tout doucement de la lumière pour le conduire dans le néant. Un meurtre ne vaut pas mieux qu'une partie de cartes si celle-ci peut faire l'affaire. En effet, le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. C'est la pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans bornes kilométriques ni panneaux indicateurs. Alors nous, à l'inverse, persévérons dans les plus petits prochains pas vers la paix. Troisièmement, pour conserver notre paix intérieure, il est une condition dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé, mais qui est fondamentale, le pardon. Demander pardon à qui nous avons fait du tort et pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, quel que soit le tort en question. Ça n'est, évidemment pas, on est bien d'accord, une chose facile, et il faut parfois beaucoup de temps. C'est une grâce que nous pouvons demander humblement dans la prière, car bien souvent, notre propre force ne suffira pas. Et il faut donc nous tourner vers le Père, qui est le seul capable de pardonner, puisqu'il est le seul qui peut tout guérir et tout restaurer. Si bien qu'on peut se dire que la source du pardon n'est pas avant tout en nous-mêmes, mais évidemment avant tout en Dieu. Et comme Jésus nous adressait au Père en ces termes, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais nous pouvons être assurés que si nous demandons cette grâce avec persévérance et foi, de savoir pardonner de tout notre cœur, elle nous sera accordée et qu'elle est la source d'une immense paix, une paix stable. Si nous n'en sommes pas tout à fait convaincus, je peux vous dire que nous changerons d'avis le 19 février prochain, quand Fouad Hassoun viendra dans notre paroisse témoigner de la force du pardon comme source de cette paix durable. Parce qu'on sait aussi que si nous refusons de pardonner, si nous endurcissons notre cœur à celui qui nous a fait du mal, eh bien, nous allons toujours garder des pensées mauvaises contre lui. Et ces sentiments vont prendre de la place, trop de place dans notre cœur, et vont nous empêcher de goûter à une paix profonde. En fait, un cœur qui ne peut ressentir la paix durable que si la miséricorde règne en lui. Tant qu'il est habité par la colère ou la rancune, par des sentiments mauvais envers autrui, la paix n'est pas possible. Et pour réussir à pardonner, il est important de comprendre que la décision du pardon s'ancre dans la foi et l'espérance. La foi me donne de croire que Dieu est assez puissant pour tirer un bien du mal que j'ai subi. L'espérance me permet de ne pas enfermer une personne dans le mal qu'elle a commis. Et on peut ici souligner une différence qu'il y a entre la justice, qui relève du mérite, la justice, c'est un avocat qui vous parle, et la miséricorde, qui elle est fondée sur l'amour. Chaque fois que nous laissons Dieu nous approcher dans le sacrement de réconciliation, il ne nous traite pas selon la justice ou selon le mérite, et heureusement, parce que la justice garde des dossiers, contrairement à la miséricorde qui brûle tout. Et nous pouvons avoir, il faut l'admettre, tendance à nous comporter en épicier avec ceux qui nous ont blessés. Nous pesons tout sur notre petite balance, mais en revanche, nous sommes bien contents que Dieu, lui, n'agisse pas comme un épicier. Saint Matthieu nous dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », c'est une injonction de Jésus. Alors si nous avons accueilli le pardon miséricordieux de Dieu, nous ne pouvons continuer à considérer l'autre à l'aune de la seule justice. Ce sujet, nous aurons la chance aussi de l'approfondir avec le père Gaspard Craplet et Eric Libaud autour d'une table ronde le 17 mars prochain. En une phrase, chaque fois qu'un de nous pratique la foi et l'espérance dans le pardon, la paix se fortifie. Quatrième moyen de conserver la paix, de prendre soin de notre paix, consentir. C'est vrai que consentir avec foi à tout ce qui arrive dans notre vie, nos joies, nos contrariétés, n'est pas forcément le plus simple. Il ne s'agit évidemment pas, encore une fois, d'être passif. Hein. Nous avons le devoir de nous efforcer d'éliminer autant que possible le mal, la souffrance qui sont présents dans le monde. Mais on sait très bien aussi que, quels que soient nos efforts, nos capacités, il restera des situations douloureuses face auxquelles nous serons pauvres et impuissants. Alors on peut se révolter, se décourager, mais c'est sans doute pas évidemment la bonne réaction. En revanche, nous abandonner avec confiance dans les bras de Dieu, en acceptant le réel tel qu'il est, et non pas tel que nous rêvons qu'il soit, voilà le chemin, le bon chemin. Là encore, il ne s'agit pas non plus d'être fataliste ou d'attribuer à la volonté divine, à un Dieu qui serait comme ça, cruel ou mauvais, tout ce qui se passe dans le monde. Mais nous pouvons changer notre perspective, sinon nous risquons d'être toujours en guerre avec la vie, fâchés, tristes, découragés, à chaque fois que les choses n'iront pas dans le sens que nous voulons. Et bien évidemment, on comprend qu'on aura du mal à conserver la paix. En revanche, en acceptant le réel, en acceptant la part de croix et de contradiction qu'on trouve inévitablement dans le réel, eh bien, on peut rester en paix. On peut ici regarder Jésus et comment lui, il a consenti à ce que ses apôtres soient de temps en temps un peu blaireaux, que les saints apôtres me pardonnent. Mais face à leur lenteur, leurs incompréhensions, leurs attitudes complètement déplacées, Jésus est resté paisible. Il ne s'est jamais découragé. Il y a pas mal d'exemples dans la Bible, on peut en prendre deux. Luc 9, Jacques et Jean, alors qu'on refuse à Jésus l'entrée dans un village de Samaritains, lui demandent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Belle compréhension de la charité. Juste avant ce passage, ils discutent entre eux pour savoir parmi eux qui est le plus grand. Bonne compréhension aussi de l'humilité. On voit bien qu'ils avaient du mal parfois. Et pourtant, Jésus, à chaque fois, les pardonne, patiente, explique, consent à ce que sont ses apôtres. Alors adoptons nous aussi ce regard, cette attitude de Jésus sur nous, sur les autres, sur le monde. Et puis n'oublions pas, comme me l'a dit mon parrain Romain Brugère un jour, qu'à trop vouloir lutter contre le mal, on risque d'oublier de faire le bien. Consentons au monde et faisons là aussi un plus petit prochain pas de charité. Le cinquième point pour conserver notre paix, c'est vivre le moment présent. On l'a déjà dit dans ce parcours, un des grands ennemis de la paix intérieure, c'est cette tendance que nous avons souvent à revenir sur le passé ou bien nous projeter trop dans l'avenir. Ennemi de la gratitude aussi, si vous vous souvenez. Si nous voulons garder la paix de Dieu, il nous faut autant que possible vivre le moment présent, confier notre passé à la miséricorde infinie de Dieu et remettre notre avenir entre les mains de sa providence. Autrement dit, faire aujourd'hui ce que nous avons à faire, sans laisser peser sur notre vie les regrets du passé ou les peurs de l'avenir. Et c'est ce que redoute notre vétéran de la tentation, que nous obéissions à ce que nous dicte notre conscience aujourd'hui, que nous portions nos croix d'aujourd'hui, que nous recevions la grâce pour aujourd'hui et que nous remercions pour les joies d'aujourd'hui. Lui, il rappelle au contraire à son neveu que c'est notre affaire de les détacher du présent. Jésus nous dit « Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6. Alors évidemment, ce n'est pas facile, notre esprit est très mobile. Et au lieu d'être simplement occupé, préoccupé de ce que nous avons à faire aujourd'hui, de nous y investir pleinement, eh bien nous nous tournons souvent vers le passé, ce sont les remords, les regrets, ou trop vers l'avenir, et ça peut créer de la peur. Alors nous l'avons largement travaillé l'année dernière, pendant notre année sur la gratitude. Ne nous inquiétons pas, si je peux faire quelque chose face à une situation, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Et si je ne peux rien faire, je n'ai pas de raison de m'inquiéter non plus. Et puis on peut s'aider de cette belle prière du pape Saint Jean XXIII, rien que pour aujourd'hui, que vous retrouverez en entier sur vos feuilles, mais dont je vous cite un extrait. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. Ce qu'il nous faut essayer d'éviter, c'est l'inquiétude, la peur, le souci qui nous ronge et qui nous empêche d'être disponibles à ce que nous devons vivre maintenant, d'être présents à Dieu, à nous-mêmes et attentifs aux autres. Maximilien Kolbe disait « Il faut être occupé, mais non pas préoccupé. » Et l'amour et la charité auront tout à y gagner. La véritable paix que nous cherchons, on le redit, est un don que Dieu nous offre, et donc c'est en le laissant nous approcher, en disposant notre écosystème intérieur correctement, que nous pourrons l'accueillir pleinement. Pour conclure notre propos, cette citation du père Jacques Philippe, que mon épouse a trouvée. Tout cela pour dire en conclusion que l'acquisition de la paix intérieure suppose un long travail de réconciliation avec Dieu, avec soi-même et sa faiblesse, avec le prochain, avec la vie. Tâche laborieuse, qui demande patience et persévérance, mais tout à fait possible, Car c'est justement pour cette œuvre de réconciliation que le Christ nous est donné, lui qui est venu faire la paix par le sang de sa croix, réconciliant l'homme avec Dieu en lui manifestant le vrai visage du Père. Il réconcilie progressivement l'homme avec lui-même, avec son prochain, avec la vie. Seul le Christ est notre paix, comme l'affirme saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, car nous avons en lui libre accès auprès du Père. Avant de repasser la parole au Père Richard et vos échanges, je me permets de vous dire merci pour votre présence, votre attention et paix à chacun de vous.
Merci Ludwig. Donc il est 21h05. On va peut-être poursuivre nos échanges jusqu'à 25, 30 et pour